Merci Sophie Delpont et bonsoir à tous. Nous sommes ce soir à Avignon, studio de France Bleu Vaucluse, tout juste rentré d'un vaste plan d'eau, un peu plus au sud, 20 km de long et 16 de large. Sur la route, Julie Gacon avec François Teste et Sophie Bobert.
Là, on est sous le pont autoroutier, qui est une voie de trafic très importante, qui enjambe le chenal de Caronte, donc ce chenal qui amène jusqu'à l'étang. Pour moi, ça a été vraiment très important de comprendre aussi la perception qu'avaient les gens qui ne vivaient pas sur ce territoire.
Les personnes de ma génération connaissent cet étang de mer parce que quand ils étaient petits, leurs parents, nos parents, nous amenaient, nous baignaient au bord de l'étang de mer. Et on faisait attention à ne pas marcher sur les oursins et on ramassait des coquillages pour la maison. Après, il y a eu cette période noire pour l'étang de mer qui a été l'industrie et tout ça, où l'étang de mer, pour tout le monde, est devenu quelque chose d'immonde, une sorte d'égout à ciel ouvert. Donc les générations qui ont suivi ont oublié le chemin de l'étang de mer. Donc c'est vrai que maintenant, il se peut qu'il y ait un sentiment de dire l'étang de mer, qu'est-ce qu'il y a, où ça se trouve, qu'est-ce qu'on y fait.
C'est vrai que quand on arrive, notamment, alors ça peut être par le train, par la voiture, on sait qu'on arrive, on voit les cheminées en fait, des usines, et on sait que ça y est, on est arrivé à l'étang de Berre.
Oui, c'est la particularité de ce territoire, c'est de voir avant toute chose, c'est même pas que de voir, c'est presque de sentir quand on est proche du territoire. D'ailleurs, c'était une remarque que m'avait fait une personne. Il disait, moi, dès que je commence à sentir l'odeur de la raffinerie, je sais que je suis arrivé chez moi. Et donc, il y a une vraie appropriation de cela. Mais forcément, quand on n'y habite pas, on est agressé. Alors, ça ne veut pas dire que la personne qui y habite ne l'est pas, elle l'est aussi. Mais elle a intégré quelque chose de différent pour elle. Il y a une appropriation de sa fumée, de son odeur, de sa cheminée, qui est le signe de chez lui, en fait.
Dans l'esprit des gens de passage, l'homme n'existe plus sur ce territoire. Il n'est plus à sa place. Il s'est laissé engloutir par ses kilomètres de tuyaux métalliques et la fumée qui sort des cheminées, mêlée aux douces ondulations d'une eau poussée vers la mer. Dans un travail de plusieurs années qu'il a consacré à l'étang de Berre, dans les Bouches-du-Rhône, le photographe Franck Pourcel, auteur de ces lignes, a quant à lui trouvé la vie. La vie est partout, écrit-il, au pied de la ville nouvelle de Vitrolles, au pied de la raffinerie Total à la Mède, le long du canal du Rove. L'étang de Berre, ses usines de chimie et de pétrochimie, sa centrale hydroélectrique, mais aussi ses espaces de nature, de nautisme, ses projets d'avenir et ses hommes. Bonsoir Raphaël Grisel.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Ce soir, vous êtes le directeur du groupement d'intérêt public pour la réhabilitation de l'étang de Berre, le GIPREB. Pour le dire vite, c'est un syndicat mixte.
Tout à fait. Aujourd'hui, c'est un syndicat mixte.
Donc, ça veut dire qu'il réunit collectivités.
C'est un regroupement de collectivités, de communes et puis aussi de chambres consulaires, donc les chambres d'agriculture et chambres d'industrie de Marseille-Provence.
Alors, groupement d'intérêt public pour la réhabilitation de l'étang de Berre. La définition du dictionnaire du mot réhabilitation, c'est l'action de rétablir quelque chose dans l'estime des autres. C'est donc une question d'image.
Oui, tout à fait. L'image, elle fait partie depuis l'origine du GIPREB. des objectifs, des points sur lesquels la structure allait être amenée à travailler. Alors c'est bien sûr pas la seule, puisqu'on entend dans réhabilitation aussi tout l'aspect écologique qui est central dans la question de l'étang de Berre. Mais effectivement, l'image a toujours fait partie du projet, au point que dans les programmes qui sont prévus, programmes d'action qui sont prévus pour sa réhabilitation, il y a un volet spécifique dédié à l'image de l'étang de Berre.
Et à la communication autour de ce qu'il y a de bien autour de cet étang. Vous qui vivez peut-être autour de l'étang, je ne sais pas, à moins que vous ne faites qu'y travailler, Raphaël Grisel, entre parenthèses.
Les deux.
Oui, quand vous arrivez, quand vous quittez l'étang, vous partez quelques jours et que vous revenez, quelle est l'image que vous en avez en premier? Quel est votre étang, si vous deviez le raconter?
Alors, mon étang, il est, je pense que la particularité pour les gens qui travaillent à proximité de l'étang de Berre ou qui habitent à proximité de l'étang de Berre et qui vont vers l'étang de Berre tous les matins, c'est que on n'utilise pas forcément les axes de communication principaux, les principales routes, qui sont effectivement celles qui passent à proximité des raffineries et des sites industriels ou des zones de plus forte activité économique. Et de ce fait, elle est un peu différente, cette image, de celle que peut avoir la personne de passage, finalement, qui va pas souhaiter s'arrêter. Et elle peut être celle, par exemple, d'un passage de col, puisque l'étang de Berre est entouré de chaînes de collines. Donc d'un passage de col au milieu de pins, c'est ce qu'il y a principalement chez nous. Et on va découvrir tout d'un coup un plan d'eau, en fait, qui est là, qui s'étale, entouré d'un rideau de collines et complètement séparé de la mer. Alors pour les gens qui ne font que le traverser, souvent il n'est pas évident de savoir où est la mer, où est l'étang, comment on se situe, parce que la mer à proximité de l'étang de Berre, c'est le golfe de Fos, qui lui aussi est très fermé. Donc selon comment on le parcourt, on a du mal à se positionner finalement. Qu'est-ce qui est la mer, qu'est-ce qui est l'étang? Donc c'est parfois un peu compliqué. Quand on arrive par le nord notamment, on a cette étendue d'eau qui est devant nous, à nos pieds, qui est fermée, qui la plupart du temps est assez calme. Et donc quand même parcouru pour toute sa partie est de villages et de villes, avec des villes importantes, et pour toute sa partie ouest d'un rideau finalement de collines et de pins qui viennent jusqu'au bord de la mer, et c'est quelque chose d'assez, enfin de la mer ou de l'étang, et c'est quelque chose d'assez rare aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône, où finalement on a une urbanisation qui se fait souvent jusqu'au littoral. Et ce qui n'est pas le cas sur l'étang de Berre.
Donc il n'y a pas que des grandes villes comme, alors si on est au centre de l'étang, vous avez sans doute eu déjà l'occasion de traverser l'étang en bateau, si on se trouve au centre de l'étang, qu'on regarde à 360 degrés, à l'est on a ces grandes villes que sont Vitrolles et Marignane, il y a certaines portions plus sauvages.
Oui, alors aujourd'hui ça fait partie du paradoxe de l'étang de Berre, c'est-à-dire qu'on lui fait souvent coller une image très, très urbaine et industrielle. Il est constitué de trois parties, cet étang, qui sont le grand étang, l'étang de Veynes, c'est celui sur lequel on a l'aéroport, par exemple, et puis également la raffinerie de Berre-l'Étang, et puis l'étang de Beaulmont, qui est plus au sud. En fait, lorsqu'on parcourt ces trois étangs, les visions sont totalement différentes. Et si c'est vrai que l'étang de Veynes aujourd'hui est relativement, enfin celui qui est le plus urbanisé et industrialisé, hein, puisqu'on a la piste de l'aéroport, on a une raffinerie, on a des villes qui viennent vraiment jusque sur son littoral, le reste finalement apparaît très vite comme quelque chose d'assez naturel et sauvage, et en particulier lorsqu'on est sur l'eau. Puisque souvent les villes sont un peu en retrait, finalement, que ce soit Istres, que ce soit même Saint-Mitre-les-Remparts, Miramas, toutes ces villes sont en retrait de l'étang, et donc on ne les aperçoit pas forcément depuis le plan d'eau.
L'étang de Berre qui a cette particularité d'être le deuxième plus grand lac salé d'Europe, évidemment, puisqu'il communique avec la Méditerranée via le canal de Caronte. Étang de Berre plutôt, en général, calme, disiez-vous. Bon, Serge Andréoni, on a dû trouver refuge dans notre voiture de location parce que ça souffle dehors très très fort. D'ailleurs, l'étang de Berre est déchaîné.
Oui.
C'est une image assez surprenante que de voir un étang déchaîné.
Sachez que sur cet étang, il y a des tempêtes. Et des tempêtes violentes. Oui, parce que lorsque ça souffle très fort, soit le Mistral, soit la Tramontane, soit le vent du sud, Nous avons beaucoup de périodes de vent sur notre commune. Nous sommes en Provence, hein, donc par grand vent, les temps arrivent à monter sur la berge. Oui. Ça fait partie des aspects pittoresques. Hein,
mais... On a d'ici une vue assez belle de l'étang de Berre, avec donc cette esplanade que vous avez aménagée il y a quelques années.
Il y a 4 ans et demi, oui. Enfin, autrefois, c'était un site fermé. C'était l'ancienne base aéronavale, donc où il y a eu là jusqu'à 2000 marins. C'était une petite antenne avancée de l'OTAN. Il y avait un château là-bas de l'autre côté. Et nous avons libéré ce site parce que j'ai souhaité que les Berroises et les Berrois puissent se réapproprier l'étang de Berre.
Sergent Andréoni, on n'a pas précisé que vous êtes le maire de la commune de Berre-l'Étang.
Oui.
Donc des 21 communes qui encerclent l'étang de Berre, vous êtes maire de celle qui porte le nom.
Celle qui porte le nom,
la commune éponyme.
Oui, exact.
Et vous avez dit que vous aviez dû faire en sorte que les habitants de Berre-l'Étang se réapproprient cet étang. Parce qu'il n'existait pas
pour eux. Non, mais c'est pas qu'il n'existait pas, mais il y avait un mur d'enceinte de près de 2 mètres de haut, donc c'était fermé. Et nous avons fait deux boulevards qui tombent désormais sur l'étang depuis le centre-ville. On voit l'étang depuis le centre-ville, alors qu'avant on ne pouvait pas le faire.
À quand remontent vos premiers souvenirs de l'étang de Berre?
Oh là là, je ne sais pas. J'ai 76 ans. Hein. Bon. Et lorsque j'étais jeune, j'habitais Marseille, mes parents habitaient Marseille. Le dimanche, nous venions passer des jours de villégiature extraordinaires, hein. Soit sur la plage du Jail, c'est du côté de Marignane, soit un peu plus loin, les Heures Claires, le Ranquet, c'est du côté d'Istres. Hein. Voilà, c'était des sites merveilleux. D'autant que c'était vraiment un étang, très poissonneux. Deuxièmement, sur Istres, si vous y rendez, vous verrez qu'il y a un mur d'huîtres. Ça veut dire que l'étang était bourré de crustacés. Hein. Il y avait des huîtres, il y avait des moules, il y avait des oursins. Lorsque j'étais petit, mes parents m'achetaient toujours, pour venir là, c'était des pantoufles en plastique.
Hein, des méduses.
Si on ne mettait pas ça aux pieds, on repartait avec les pieds bourrés d'épines d'oursins. C'était un havre extraordinaire, un havre de vie. Voilà. Et lorsque j'ai imaginé, c'était le 6 décembre 1991, j'ai été l'instigateur d'un référendum d'initiative locale contre l'État et contre EDF. Voilà, oui, tout à fait.
Alors, 1991, il faut nous expliquer, EDF, en tout cas quelques années avant, a installé une centrale hydraulique sur l'étang de Berre et donc rejette les eaux douces dans une eau salée.
Voilà, l'étang de Berre, c'est 900 millions de mètres cubes d'eau salée. Et là-dessus, dans ces 900 millions de mètres cubes d'eau salée, EDF, pendant des décennies, a déversé par la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas, qui est l'aboutissement de Verdon-Durance, de la chaîne Verdon-Durance, jusqu'à 6 milliards de mètres cubes d'eau douce. C'est une catastrophe écologique. Et moi, je dis que c'est à la fois une catastrophe écologique, mais également une catastrophe humaine. Il y a eu sur cet étang plusieurs types de pollution. Bien. Première pollution, ça a été la pollution démographique. Beaucoup de gens sont venus s'installer sur le pourtour de l'étang, les villes ont grandi, hein, et pendant très très longtemps, les stations d'épuration n'étaient pas aux normes. Donc c'est une forme de pollution. Ensuite, il y a eu, c'est vrai, la pollution industrielle. Hein. Les raffineries se sont installées sur le pourtour de l'étang. Sur la commune de Berre-l'Étang, le site pétrochimique de Shell s'est installé en 1929. Et donc, il y a eu cette pollution chimique. Mais la seule pollution qui a tué la vie dans l'étang, c'est celle d'EDF.
Est-ce qu'on a une idée du nombre d'emplois que génère l'activité industrielle autour de l'étang de Berre?
Sur l'ensemble du pourtour, si je prends ce que je connais le mieux quand même, Berre-l'Étang, dans le site pétrochimique de Berre-l'Étang, il y a eu jusqu'à 3000 salariés in situ, et puis la périphérie. La périphérie, ce sont les sous-traitants. Hein. On peut en compter encore au moins 1000 à 1500. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, et petit à petit, tout ceci s'amenuise, si bien que dans le site pétrochimique aujourd'hui, il n'y reste plus que 930 ou 40 salariés, parce que nous avons perdu la raffinerie, qui a définitivement fermé, Hein, le seul, c'est 350 emplois de moins.
Hein. C'était il y a 3 ans, ouais, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça. Ça a fermé définitivement. C'est un bassin, l'étang de Berre, qui a toujours été, depuis 1929, le poumon économique des Bouches-du-Rhône. Moi, j'ai tendance à dire de PACA, hein, parce que, bon, la pétrochimie, elle était toute là. Hein. Bon, tout ça, ça a tendance à partir. Moi, j'ai un axiome de base qui est très simple. Il faut que nous soyons suffisamment intelligents pour assurer une symbiose harmonieuse entre la nécessaire industrialisation, source de vie parce que source d'emploi, et la non moins exigence absolue de la meilleure qualité de vie possible. Voilà. Voilà l'action de base de mon combat.
Est-ce que les riverains vivent avec cette idée de la possibilité d'un accident
non.
industriel ? Est-ce que par
Il
exemple.
Que ça peut exister.
Est-ce que par mais exemple, ils ont
peur.
Chez eux le sparadrap nécessaire à boucher pas les tout, orifices
non,
en cas d'accident ?
Ils n'en ont pas peur. Vous savez, il y a une culture ancestrale, je dirais, enfin, pluridécennale, bon, voilà, qui fait que. Interrogez-les, vous verrez, personne ne vous dira j'ai peur, personne. Parce qu'on y vit très bien. Mais oui, mais même très, 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 très bien. Vous savez, pendant la guerre, cet étang, ça a été quelque chose d'important. Hein. Et oui, moi, j'habitais Marseille avec mes parents, c'était plus facile de vivre ici que de vivre à Marseille pendant la guerre. Et oui, on pouvait pêcher, il y avait le gibier, etc. On vivait quand même ici. Donc cet étang, ça a été une source de vie. Voilà, c'est important. Moi, c'est toujours l'aspect humain qui compte pour moi. Tout le reste, c'est de la littérature.
Bon, le jour va tomber, Serge Andréoni. Ouais. Vous allez faire une petite balade sur les berges de l'étang.
Oui.
Sur votre croisette.
C'est la croisette. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein.
Bon. Non.
Non. Ah bon, ah ben, je vais vous le dire. Parce que lorsque je reçois des gens qui viennent là pour la première fois et qui voient notre croisette, je leur dis surtout, ne dites pas ça aux gens de Cannes. Risquerait de canner de jalousie. Voilà.
Sur la route de l'étang de Berre dans les Bouches-du-Rhône, nous sommes ici dans les studios de France Bleu Vaucluse avec notre invité Raphaël Grisel, président du groupement d'intérêt public, directeur du groupement d'intérêt public pour la réhabilitation de l'étang de Berre, parce que le président c'est justement Serge Andréoni qu'on vient d'entendre, le maire de Berre-l'Étang, qui disait, Raphaël Grisel, il faut être assez intelligent pour réussir la symbiose entre l'industrialisation et la qualité de vie. Mais comment l'étang de Berre est peu à peu devenu ce site à vocation industrielle que l'on sait. Pourquoi lui ? Pourquoi on l'a choisi lui pour installer les usines ?
Alors, il y a forcément un choix stratégique qui s'est décidé à l'échelle nationale à l'époque où on prévoyait de grandes planifications. Mais finalement, quand on regarde bien pour l'étang de Berre, c'est pas vraiment le cas. Ça a été le cas surtout pour le golfe de Fos et les alentours du port autonome de Marseille, ce qui est maintenant le grand port maritime de Marseille. Pour l'étang de Berre, c'est plus ancien. Si on regarde les premières traces d'industrialisation, finalement, ça remonte à 1690, c'est l'installation d'une poudrerie royale sur la commune de Saint-Chamas, tout au nord de l'étang de Berre.
Avec sa manufacture de poudre noire et d'explosifs.
Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, on a sous Louis XIV la vente des canaux locaux qui permet l'installation de moulins à Martinet pour faire la poudre. Alors, il faut savoir que à partir déjà de ces années-là, l'étang de Berre est apparu comme un site stratégique finalement parce que la pression y était moins forte, il y avait de l'espace disponible, il y avait les conditions qui étaient réunies pour mettre en place ce type d'activité. Ensuite, il y a eu la soude dans la fin des années 1800, parce que on avait là aussi des zones de marais avec des végétaux en particulier hein, qui permettaient cette industrie.
Et qui servait à quoi cette soude ? C'était pas aussi pour fabriquer du savon de Marseille ?
Si, tout ouais. à fait. La soude que l'on mélangeait donc à l'huile d'olive hein, pour faire le savon de Marseille. Donc là encore, on avait des espaces disponibles et on avait de la ressource pour pouvoir mettre en place ces industries. Et en fait, ça s'est poursuivi, je dirais presque logiquement, puisque pour faire de la soude, c'était déjà les bases de l'industrie, les bases, je dirais, techniques dont on allait avoir ensuite besoin pour faire tout ce qui se rapproche de la pétrochimie aujourd'hui, avec déjà des technologies qui commençaient à se mettre en place.
Et déjà les premiers conflits d'usage du territoire entre industrie et environnement, parce que les vapeurs d'acide dégagées par ces usines de soude, elles étaient très toxiques.
Voilà, tout à fait. On retrouve des traces assez anciennes, mais de conflits effectivement qui se sont mis en place dès ces années-là entre les populations locales et les industriels, parce qu'effectivement il y avait des rejets de fumée assez toxiques, et donc les gens commençaient à manifester. Et s'il y a eu une période de croissance d'activité et d'emploi qui a été plutôt bien perçue, en fait très vite on s'est aperçu aussi que ça pouvait apporter certains troubles. Et donc, pour revenir, c'est assez logiquement que sur les bases de ces premiers embryons d'industrie, finalement, l'industrie pétrochimique est aussi venue s'installer dans les années 30. Mais, comme je disais au début, on n'était pas encore dans cette question-là de planification. Ensuite, l'étang de Berre est devenu un site stratégique parce qu'à proximité, on avait Marseille, à proximité, on avait le grand port maritime de Marseille également. Et puis, des villes qui se sont développées avec l'aéroport et tout ça s'est mis en place de manière assez progressive, finalement.
Jusqu'à ce qu'il devienne le cœur de la métropole ex-Marseille.
Donc aujourd'hui, oui, le cœur de la métropole et aussi le cœur du département. Moi, je m'amuse souvent à dire que si on trace des diagonales, finalement, entre le département qui peut être, on va dire, associé à une forme assez rectangulaire, si on en trace les grandes diagonales, le milieu, finalement, c'est l'étang de Berre. Donc, en termes géographiques, en tout cas, il en est au centre. Mais il a été souvent, effectivement, oublié, comme le disait le président.
Alors, on est dans le petit port de Châteauneuf-les-Martigues, coincé entre l'autoroute A55 qui relie Marseille et Martigues. Quand on regarde un peu plus au nord, Istres et l'usine de Saint-Chamas. Vous, Mario, vous êtes pêcheur sur ce port de Châteauneuf-les-Martigues. Et vous, William Thiet, vous êtes ce qu'on appelle premier prud'homme de pêche. C'est une spécificité méditerranéenne. Peut-être en deux mots, on peut rappeler ce que c'est qu'une prud'homie de pêche. Vous êtes là pour à la fois surveiller l'exercice de la profession et défendre ses droits.
Surtout aider les pêcheurs à ce qu'on appelle le partage de la mer, au mieux, on va dire, du capital poisson qu'on peut y trouver.
Le capital poisson, en l'occurrence, Mario, pour vous, il s'agit de quel poisson?
Nous sommes spécialisés dans les anguilles.
L'anguille, c'est le poisson qu'on trouve le plus communément au fond des étangs, en général.
C'est un étang, ici c'est pas la mer, c'est un étang de Berre, le plus grand d'Europe.
L'anguille est un poisson migrateur qui remonte tous les estuaires, les étangs, tout ça, hein, donc il cherche à remonter toujours vers le centre de la Terre. En période, été comme hiver, il y a deux périodes de pêche. Les pêcheurs calent des filets spécifiques à la pêche de l'anguille, qu'on appelle des trabacs, hein, ici, et qui servent, qui sont tirés au sort. Hein. Il y a toute une réglementation. Hein. Un pêcheur ne peut pas caler n'importe comment. C'est la prud'homie qui, normalement, fait les tirages au sort, gère les emplacements, surveille que tout le monde respecte bien les règles du jeu.
Mario, vous êtes combien de pêcheurs ici, sur l'étang de Berre, à exercer encore cette profession qui, il y a encore 20-30 ans, comptait à peu près peut-être 300 bateaux sur l'étang de Berre?
Oui, 300 bateaux, effectivement. Là, on reste une vingtaine d'équipages.
Sur la région, hein, étang de Berre, on va dire un peu l'embouchure du Rhône, qui est propice à l'anguille aussi, avec les bassins de Saint-Louis et de Carteau, il y a 48-50 licences pêche à anguille.
Le bruit de fond qu'on entend, c'est l'autoroute
A55. A55 qui part de Marseille, qui arrive à Martigues.
Ça dépend du vent, hein. Quand on a un mistral très fort, on l'entend pas. C'est ceux de la côte qui l'entendent. Quand c'est comme aujourd'hui un peu de sud, c'est nous qui l'entendons. Voilà, ça occupe.
Ça occupe, mais il n'y a pas vraiment matière à s'ennuyer ici quand même. Il y a du poisson.
Non, sur l'étang, ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. Hein. Quand on voit pas un pêcheur, c'est qu'il se repose, hein, parce qu'il a passé une dure nuit ou une dure journée. Donc automatiquement, hein, bon, on le voit pas. On a toujours l'impression que le pêcheur ne fait rien, parce que quand on le voit sur le quai, il a fini sa journée, il a fini son travail, ou il est en train de réparer des filets. Donc on a l'impression que c'est un petit boulot pépère, quoi, qui n'est pas du tout le cas.
La pêche ici sur l'étang de Berre n'a pas toujours été simple pour vous, notamment parce que les industries chimiques, pétrochimiques qui sont autour de l'étang de Berre ont longtemps reversé leurs déchets dans les eaux de l'étang. Quelles conséquences ça a eu sur votre activité ?
Alors, il y a eu deux périodes dans l'étang. Il y a eu la période des industriels. Alors, les industriels ont pollué d'une manière psychochimique, hein, on va dire. C'est-à-dire que le poisson, dans l'étang, il fait des périodes. Il rentre pour frayer, il ressort. Donc, il y a eu une période où on n'avait pas besoin de mettre de l'huile dans la poêle pour faire frire un poisson. Il explosait. Il était tellement imbibé qu'il explosait. Mais il y en avait des tonnes, parce qu'il y avait de la vie dans l'étang. Il y avait des herbiers, il y avait des coquillages, il y avait énormément de vie. Et après, on a eu l'EDF, avec les rejets d'eau douce.
La centrale hydraulique.
La centrale hydraulique. Qui, elle, en rejetant de l'eau douce, en très grande quantité, avec du limon, hein, une espèce de vase, qui a recouvert le fond petit à petit, donc qui a tué tout ce qu'il y avait au fond. L'eau douce, qui a anoxié les fonds par un manque d'oxygène. On s'est trouvé dans une période où les industriels ne polluaient plus, mais où le poisson ne venait plus. Parce qu'il ne trouvait plus son compte, il ne trouvait plus la vie, il ne trouvait plus ce qu'il voulait. Alors que les industriels ont pollué, oui, mais sans trop de déséquilibre au niveau, on va dire, habitat du poisson.
Mais alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux, avoir beaucoup de poissons pleins d'hydrocarbures et de PCB?
Non,
peu de poissons.
Le PCB, c'est autre chose. Il vaut mieux avoir plein de poissons, bien sûr, sans les industriels. Mais on a besoin des industriels aussi pour les communes, pour le travail, pour l'emploi et tout ça. Donc il faut arriver à trouver un moment, un juste milieu, où l'industriel récupère ses déchets et les traite, hein, et tout le monde peut y trouver son compte, parce que l'étang est magnifique. Hein, c'est une étendue d'eau magnifique qui se régénère. Bon, on peut pas dire qu'elle est sauvée, hein, mais elle envoie de guérison. Mais on est conscient que si demain, il y a des pluies diluviennes, si demain la Durance monte très haut, si demain Arles se retrouve encore avec un risque d'inondation, eh bien, l'ordre sera donné à l'EDF de reverser dans l'étang de Berre, et tout ce qui aura été gagné pendant les 15 ans qui viennent de passer seront perdus en une ou deux semaines. Ça, on en est conscient aussi. Donc c'est un gros problème pour les pêcheurs comme Mario d'investir dans du matériel, de faire des prévisions sur un avenir très proche, ça va, mais un peu loin, c'est plus difficile, parce qu'investir dans du matériel avec cette épée de Damoclès qui risque du jour au lendemain de tout refoutre en l'air, pour parler sèchement, c'est compliqué pour la pêche.
Autour de l'étang de Berre, on ne nous parle que d'elle, la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas. Raphaël Grisel, en fait, elle sert à quoi ou elle sert à qui, cette centrale EDF installée là par l'État dans les années 60? Qui fournit-elle en électricité? J'imagine que c'est son but premier.
Alors en fait, c'est assez compliqué parce qu'elle fournit le réseau. En fait, l'électricité, tous les gens qui ont chez eux des panneaux solaires le savent, hein, l'électricité elle est revendue au réseau et ensuite elle va n'importe où, elle vient alimenter le réseau. Donc c'est sûr qu'il y a quand même une certaine localisation de la production et de l'utilisation, mais elle sert à peu. Voilà, elle va sur le réseau et après on ne sait pas exactement où elle part. Par contre, on peut bien sûr comparer les niveaux de production à des villes, par exemple. On sait qu'elle sert, par exemple, à alimenter des villes une ville comme Aix, si elle tourne à plein régime. Voilà. On peut avoir des éléments de comparaison, mais on peut pas vraiment dire elle alimente tel secteur ou tel secteur, puisque c'est tout un jeu finalement d'équilibre entre les différents moyens de production que sont les centrales nucléaires, nucléaire qui assure vraiment la production de base finalement. Et puis ensuite les centrales hydroélectriques qui ont un rôle un peu différent. Et c'est tout là toute l'importance de la chaîne Durance-Verdon hein, qui commence dans les Alpes et qui arrive jusqu'à l'étang de Berre. C'est de finalement assurer ce qu'on appelle la pointe, c'est-à-dire le moment où la centrale, enfin le réseau de centrales nucléaires n'est plus suffisant parce que on a un coup de froid, parce que tout le monde se met à allumer les radiateurs électriques en même temps, et donc les pics de consommation sont assurés finalement par des pics de production sur ces autres moyens que sont les centrales hydroélectriques, que sont les centrales thermiques également.
Donc plusieurs milliers de foyers, a priori, lui disent merci à cette centrale. Sauf que le problème, c'est qu'on l'a entendu, et Serge Andréoni et ce pêcheur nous l'a expliqué, que la centrale hydroélectrique rejette dans l'eau salée, l'étang de Berre rejette de l'eau douce, qui est l'eau de la Durance, avec donc les conséquences écologiques et qu'on a entendues. Alors la justice européenne a été saisie par la coordination des pêcheurs, entre autres, et a condamné la France en 2004 pour cette pollution émise par la centrale. Avec quel résultat? Qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là?
Alors, les résultats, ça a été que la France a été contrainte de mettre en place des nouvelles dispositions, des nouvelles modalités de rejet de la centrale hydroélectrique, et donc notamment en limitant ces rejets. Alors, ça a été limité de manière expérimentale à partir de fin 2005, avec des rejets qui sont passés d'une moyenne à 2,1 milliards de mètres cubes par an, sachant que le volume de l'étang est de 900 millions de mètres cubes, à aujourd'hui 1,2 milliard de mètres cubes.
Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'autre? Parce que les chiffres, c'est vrai que sont difficiles à saisir, mais quelle serait l'alternative plutôt que de rejeter ces eaux dans l'étang de Berre? Est-ce que vous avez des propositions?
Oui, alors aujourd'hui, le projet qui est défendu par le GIPREB depuis son existence, c'est de finalement de poursuivre le travail. C'est-à-dire qu'il y a un canal qui permet d'acheminer les eaux depuis les montagnes jusqu'à l'étang de Berre en alimentant les différentes centrales hydroélectriques. Et finalement, lorsqu'on le regarde à l'échelle de la région, cet aménagement, on se dit, il n'est pas fini. Il aurait fallu aller jusqu'à la mer en utilisant au maximum toutes les dénivellations que permet la topographie locale, mais en allant pas directement à la mer, mais au Rhône, qui est finalement le milieu récepteur normal historique de la Durance.
Alors EDF a déjà diminué ses rejets d'eau douce, les industriels ont diminué au fil des années leurs rejets toxiques dans ou sur l'étang de Berre, et ceci dit, malgré tous les efforts entrepris, on ne parle pas seulement d'une pollution psychochimique, comme le disait William Thier, mais voilà, la qualité de l'eau reste dégradée, vous l'écrivez vous-même dans le magazine d'actualité, la revue du GIPREB, la revue Vision des Temps.
Alors ce qui est compliqué, c'est que on a sur l'étang de Berre différents, enfin, lorsqu'on parle de pollution, on peut parler de différentes choses. Et par exemple, lorsqu'on parle de baignade, ce que l'on considère comme une pollution, c'est la pollution bactériologique. Aujourd'hui, dans l'étang de Berre, la plupart du temps, il n'y a plus de pollution bactériologique, sauf cas d'orage précis en été. C'est ce qui se produit sur à peu près toutes les zones littorales de France, où on peut avoir des dégradations de la qualité des eaux de baignade. Mais en dehors de ces épisodes-là, la qualité de l'eau, elle est très bonne, elle est même excellente au titre de la directive baignade. Pour autant, le milieu, il reste dégradé. Et par exemple, en termes d'eutrophisation, en fait, c'est la charge en azote et en phosphore que l'on a dans les milieux aquatiques. On reste globalement suffisamment élevé pour être classé médiocre ou mauvais au titre de la directive cadre sur l'eau. Donc on a toujours un problème finalement d'équilibre du milieu aquatique. Nous, on appelle ça des dysfonctionnements plutôt qu'une pollution aujourd'hui. Effectivement, les apports d'eau douce, ils sont ce qu'ils sont. Et il y a aujourd'hui un certain nombre d'éléments qui font que finalement l'étang reste dégradé. Il y a effectivement cette anoxie des fonds, le manque d'oxygène, qui fait qu'il n'y a pas de vie sur plus de 40% des fonds de l'étang. Il y a cette charge trophique qui fait qu'il y a toujours des développements assez exubérants d'algues, donc les ulves par exemple que l'on retrouve en Bretagne, qui se développent aussi dans l'étang de Berre, ou du phytoplancton qui vont donner à l'eau un aspect vert et un peu plus chargé. Donc ça, c'est typique des étangs, mais ça n'était pas aussi élevé auparavant.
Alors d'aucuns disent qu'il faudrait une bonne tempête, enfin que les tempêtes en tout cas permettent parfois de mélanger les eaux et de rétablir un certain équilibre. Alors tout ça n'empêche pas de nombreux poissons de s'y ébattre, puisqu'on a entendu Mario qui pêche l'anguille, entre parenthèses, on ne sait pas pour combien de temps, puisqu'on nous dit sans cesse que c'est une espèce menacée, mais il y a aussi des espèces autochtones et des nouveaux venus, les sols paraît-il, et le retour des palourdes.
Oui, Alors, donc effectivement, il y a donc une diminution des rejets qui a été réalisée depuis 2005. Et donc, on a une stabilisation de la salinité qui s'est mise en place avec effectivement le retour de poissons marins, comme les dorades, les loups et les soles. La palourde, c'est quelque chose d'un peu plus récent. Elle était présente dans les temps de mer historiquement. On a des récits de pêcheurs dans les années 50 qui en avaient fait une fortune, qui était leur principale ressource commerciale. Et donc elle était présente, on la trouvait nous de manière, on va dire, ponctuelle lorsque l'on fait nos divers prélèvements. Et il semble effectivement depuis quelques années que les pêcheurs de loisirs ne s'y sont pas trompés et ont retrouvé cette espèce présente sur les petits fonds de l'étang de mer, ceux sur lesquels on a de l'oxygène aujourd'hui. Donc elle est présente et c'est une vraie voie de réappropriation des berges pour les populations locales, puisque tout à coup il y a une richesse, pas au sens commercial, mais au sens de la qualité de vie. C'est-à-dire que pouvoir, lorsqu'on habite au bord de l'étang, aller le soir ramasser des palourdes et les servir en apéritif, c'est quand même quelque chose d'assez riche. Et donc ça fait partie des scènes de vie qu'on observe aujourd'hui sur l'étang de Berre.
Il y a aussi parfois quelques zooplanctons gélatineux, pour ne pas dire méduses, mais qui n'empêchent pas les gens de se baigner. Vous avez combien de plages sur l'étang ?
Alors il y a 14 plages ouvertes sur l'étang de Berre. Et il arrive effectivement qu'il y ait quelques méduses qui se baladent. Alors les méduses qu'on rencontre dans les temps de mer ne sont pas urticantes pour l'instant, parce que tout ça est toujours sujet à évolution. On voit que la température de l'eau augmente, comme le climat d'une manière générale. Et on a régulièrement des espèces nouvelles qui arrivent, qui sont des fois là de manière temporaire, de manière ponctuelle. Aujourd'hui, les deux espèces présentes ne sont pas urticantes.
Elle n'est plus là, la dame qui est sur cette photo,
oui.
Franck Pourcel.
Forcément, c'était, bon, forcément, je ne sais pas, en tout cas c'était il y a 20 ans, c'était en 96 pour une commande pour le ministère de l'Environnement sur les pratiques quotidiennes de l'environnement, sur deux sites à haut risque, Martigues et Cherbourg. Et donc là on est en bout de Martigues, au bout du monde, dans un coin du monde, et il y avait cette dame qui était sur son transat, devant son cabanon. Alors c'était l'été, donc il faisait chaud, elle est en maillot de bain. Et au loin, on voit une usine. Alors, pour être sur le lieu et pour avoir traversé la zone, toute la pétrochimie est juste derrière nous. C'est un complexe monumental avec la raffinerie et tous les dérivés du pétrole qui vont être utilisés pour créer des différentes choses. Sauf que là, la personne est tournée vers la mer, elle est dans sa revue, mais il y a un élément très important pour moi, c'est le petit chat. Le petit chat, c'est l'espace, c'est la représentation de l'espace domestique, mais ce petit chat, il s'est protégé sous l'ombre du transat, et c'est important parce qu'il fait chaud, parce que le soleil brûle, mais parce qu'il y a aussi tout l'aspect du danger potentiel lié aux raffineries, lié à tout ça, que le chat ne dit pas, mais par sa position sous le transat pourrait signifier en tout cas.
C'est vrai qu'on est ici, Franck Pourcel, on a dû, pour rejoindre ce petit bout du monde, comme vous dites, traverser les raffineries, l'odeur était très forte d'ailleurs, mais ici... La Méditerranée vient frapper contre les rochers. Les figuers commencent à faire sentir leurs odeurs. Le thym aussi, puisque c'est le début de la saison. On est loin de tout ça quand même, à quelques mètres des raffineries.
Bah, on est en Provence, et donc la Provence est présente partout. Par exemple, sur les grandes zones où sont stockées les quantités incroyables de pétrole, vous allez avoir des nichées de gabions, vous pouvez avoir des troupeaux de moutons qui viennent paître là, ou des chevaux mis en liberté pour dans ce territoire finalement vide, vide d'humains, mais pas vide de l'activité humaine. Dans l'idée stéréotypée des gens qui ne vivent pas sur ce territoire, on pense toujours qu'il n'y a plus de vie parce que tout a été abandonné par l'homme et pour les activités humaines liées à la pétrochimie. Or, les gens continuent à y vivre, les gens continuent à se baigner, à avoir des jouissances autour de la mer, autour de l'étang, autour de pratiques de kitesurf, de plongée, de ramassage de coquillages et de pêche. Et ça ne les empêche pas de vivre. Peut-être que c'est une forme de résistance, mais c'est aussi une résistance à leur mode de vie qui a toujours été celle-ci. Quand je faisais tout le tour de l'étang de Berre, j'étais tombé sur une famille qui était au pied de l'aéroport, dans une petite crique. Mais vraiment, la piste d'atterrissage était à 20 mètres. Donc on voyait passer les avions atterrir et, ou s'élever. Et en fait, c'était un pilote de ligne d'une petite compagnie privée qui, chaque fois qu'il atterrissait à Marignane, il voyait cette petite crique juste à côté avec personne qui pouvait venir. Il imaginait que l'eau était limpide. Effectivement, l'eau était limpide. Et donc, il a fait venir sa famille. Et chaque fois qu'ils avaient un moment, ils venaient se poser sur cet endroit-là. Bon, c'est vraiment presque le dernier endroit où on pourrait penser venir se baigner et passer du temps. Mais voilà, pour eux, c'était ce plaisir-là qu'ils avaient. Une forme de tranquillité, en fait.
Vous qui avez aussi, Franck Pourcel, en tant que photographe, travaillé sur un territoire où le risque, non pas industriel, mais nucléaire, est présent, il existe, on le sait, c'est à Cherbourg. Ici, la différence, c'est que ce risque-là, il est visible à l'étang de Berre. On voit les cheminées, on voit la fumée qui se dégage des cheminées, et l'idée du risque est forcément à la fois visuelle et donc possible.
Ouais, en même temps, une cheminée qui fume, c'est pas forcément un signe d'un danger. Pour les gens d'ici, c'est plutôt le signe que l'activité économique marche bien, qu'il y a du travail et donc que tout va bien. Bon, ça nous empêche qu'on est quand même sur un territoire à risque, effectivement. Mais les gens l'assument.
C'est ça, Franck Pourcel, que vous vouliez, par vos photos, peut-être montrer, c'est que la vie existe ici malgré tout, et que finalement, dans les interstices, elle peut exister.
Oui, après, c'est la vie des gens, c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, mais des gens modestes, en fait, ou des petites gens, c'est pas... Au contraire, pour moi, ça a une valeur beaucoup plus grande. Des gens qui sont déclassés, quasiment, parce qu'on va dire ah bah, c'est les gens, ils habitent dans le pétrole là-bas, comme si c'était des citoyens de seconde zone, alors que ce sont des citoyens à part entière et qu'ils ont aussi le droit de vivre là où ils ont envie de vivre. Et c'est des gens qu'il faut aussi considérer comme eux, l'habitant de la Côte d'Azur qui a sa grande villa sur les bords de Cannes ou de Nice.
Le travail de Franck Pourcel a été publié dans un livre paru en 2006, La petite mer des oubliés, avec le regard sociologique du chercheur Jean-Louis Fabiani, qui écrit, en parlant notamment des cheminées totales, « Le risque industriel est ici figuré de manière colorée et diverse, dans une combinaison à la fois oppressante et joyeuse de signaux d'apocalypse. » Il est arrivé, Raphaël Grisel, que les riverains de l'étang de Berre assistent de leur terrasse à des accidents industriels graves, comme en 92 à la raffinerie de la Med. Vous avez peut-être même vous-même déjà été surpris par une petite pluie noire d'hydrocarbures. Ça arrive, en tout cas ça existe. C'est présent dans l'esprit de ceux qui y travaillent.
Oui, alors c'est présent dans les esprits. Aujourd'hui, j'aurais plus difficilement, je pourrais plus difficilement dire que c'est encore présent dans la réalité. Les accidents, ils y arrivent. Il y en a eu cet été. Il ne faut pas oublier que le 14 juillet, deux bacs avaient été donc incendiés visiblement de manière volontaire. Et ça, effectivement, ça choque. On parlait tout à l'heure au début de l'émission de ce qu'on voyait quand on revenait. Moi, ce jour-là, je revenais effectivement de vacances et j'ai pu observer une épaisse fumée noire. Donc, c'est vrai que c'était assez inquiétant. Heureusement, le vent est souvent présent et tout ça a été, on va dire, assez vite dispersé. Les pluies d'hydrocarbures, non, ça n'existe plus aujourd'hui. On peut avoir effectivement, lorsqu'il y a des dysfonctionnements sur un site pétrochimique, ce qu'on appelle des torches importantes avec des suies. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des particules qui sont brûlées, qui vont tomber comme des suies de cheminée. Et celles-là, elles peuvent effectivement parfois retomber, mais ça reste quelque chose d'accidentel en fait.
C'est quoi qu'il en soit, un risque qui diminue en même temps que l'activité diminue. L'étang de Berre est un territoire qui sera sans doute atteint lui aussi de désindustrialisation à mesure que la France importe le pétrole raffiné plutôt que de le raffiner elle-même. Alors la raffinerie de Berre-l'Étang a fermé il y a 3 ans, nous disait son maire. Celle de la MED veut se concentrer sur les biocarburants en supprimant plusieurs dizaines de postes au passage. Que vont-elles devenir ces usines? Est-ce que l'avenir des temps de Berre, ce sont des friches industrielles?
Alors, j'espère que non, puisque effectivement, il y a une source de vie qui est là. Il y a une volonté farouche de tous les maires hein, des villes riveraines de poursuivre cette phase. Alors, parfois par des voies différentes, on le voit, les industriels eux-mêmes sont quand même force de proposition. Effectivement, on voit que sur la raffinerie de Total, il y a eu une proposition de transition. Lorsque des espaces disponibles, il y a une volonté forte aussi de pouvoir les réutiliser pour d'autres usages qui sont toutefois industriels, mais aujourd'hui il y a de la logistique, il y a tout le développement par exemple de l'aéronautique avec tout le pôle lié à la présence d'Airbus hélicoptères notamment.
Faire de l'étang de Berre un territoire où l'aéronautique prendra autant de place qu'à Toulouse.
Oui, alors on sait que l'aéronautique c'est important sur l'étang de Berre. Le maire de Berre-l'Étang, président du GIPREB, citait tout à l'heure la reconversion de l'ancienne base aéronavale. C'est aussi de là que décollaient les premiers hydravions avec Henri Fabre notamment. Donc il y a un historique, c'est pas quelque chose qui sort du chapeau aujourd'hui, l'aéronautique et sa présence sur l'étang de Berre finalement elle est naturelle, donc c'est un peu un retour aux sources finalement.
Le stockage des énergies renouvelables, le déploiement d'un technocentre dans la mécanique et les matériaux du futur, une ferme éolienne offshore, autant de projets tournés vers l'avenir. Est-ce que la métropole Aix-Marseille vous aide financièrement? Parce que finalement, on le disait tout à l'heure, c'est le poumon économique de la région, l'étang de Berre.
Alors aujourd'hui, la métropole, elle commence simplement, donc je dirais qu'il n'y en a pas d'effet concret sur le territoire. Elle se met en place institutionnellement. Par contre, ce qui me semble important, c'est qu'effectivement, on a parlé de là de nombreux projets économiques qui vont renforcer le territoire, enfin qui vont permettre en tout cas qu'il ne décline pas et que des emplois soient conservés. Il y a aussi tout un volet qu'il ne faut pas négliger, c'est le volet nautique. Ça a été évoqué par Franck Pourcel et c'est vrai que sur l'étang de Berre, on a un plan d'eau qui permet la pratique des sports nautiques et c'est quelque chose là aussi d'historique. Il y avait de la baignade dans les années 30 et puis on a un plan d'eau qui est protégé, qui est souvent bien vanté. Donc le nautisme, c'est des championnats de France, surtout plein de disciplines, du funboard, le classa, c'est les petits catamarans par exemple, le kitesurf. Donc c'est vraiment quelque chose de présent, c'est-à-dire qu'on voit l'étang de Berre qui a son rythme de vie. Avec les gens qui viennent entre midi et deux, qui viennent le soir après le travail parce qu'il y a des bases nautiques autour. C'est tous ces éléments-là finalement qui animent la journée de l'étang de Berre aujourd'hui.
Une étendue d'eau qui pourrait aussi, c'est un projet qui serait dans les cartons, faire l'objet d'une navette maritime. Ce ne serait pas un luxe peut-être dans cette région qui est toujours surchargée, dont les routes sont toujours surchargées, et puis faire de l'étang qui sépare un étang qui relie. C'est une belle idée. Merci en tout cas à vous Raphaël Grisette d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes le directeur du GIPREB, le groupement d'intérêt public pour la réalisation réhabilitation Les Temps de Berre, dont nous mettons le site internet en lien sur le nôtre, la page de Sur la route sur franceculture.fr. Merci à Elisabeth Lecor du JPREB et à Véronique Tracandi, chargée de culture au Conseil Général des Bouches-du-Rhône. Un grand merci à Franck Pourcel, dont le très beau livre La Petite Mère des Oubliés est disponible aux éditions Le Bec en l'air. Franck Pourcel qui expose en ce moment et jusqu'au 11 juin à Marseille, à la librairie Maupetit sur la Canebière. Ça s'appelle Non-lieu, une réflexion silencieuse sur l'âge post-industriel. Notre petite entreprise poursuit sa route. Cette semaine, c'était François Test au volant, copilote Sophie Bobert. Merci à France Bleu Vaucluse pour son accueil, à la technique Emmanuel Perret. La semaine prochaine, nous serons aux portes des Cévennes, dans la plaine languedocienne, portrait d'hommes et de femmes qui s'y sont installés il y a 10, il y a 20, 40 ans et que l'on a catégorisé sous l'appellation néo-ruraux. Il est bientôt 19h sur France Culture, l'heure de retrouver Marie-Hélène Fraissé pour Tout un monde.